Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 16, le canif perdu. Après le dîner, les pirates partirent à la recherche d'œufs de tortue sur le banc de sable. Ils allèrent de ci de là tâtant dans le sable avec un bâton. Là où le bâton s'enfonçait plus facilement, ils s'agenouillèrent et creusèrent avec leurs mains. Dans un seul trou, il y a parfois 50 ou 60 œufs parfaitement ronds et à peine plus gros qu'une noix. Cette nuit-là, les œufs de tortue firent les frais du festin. Le lendemain, il en restait assez pour le petit déjeuner. Les trois amis allèrent ensuite jouer sur la plage formée par le banc de sable. Puis ils se déshabillèrent et entrèrent dans l'eau peu profonde au-dessus du banc. La violence du courant occasionna de nombreuses chutes qui firent leur joie. Les gamins se prirent à bras le corps. La lutte finissait par un plongeon où vainqueurs et vaincus disparaissaient. On n'apercevait plus au-devant de l'eau qu'un fouillis de bras et de jambes. Les adversaires étaient ravis. Quand ils étaient fatigués, ils se roulaient sur le sable chaud, s'en recouvraient, puis retournaient dans l'eau et recommençaient leurs ébats. Ensuite, ils tracèrent un rond sur le sable et jouèrent au cirque, un cirque où il y avait trois clowns. Aucun d'eux n'aurait voulu renoncer à ce rôle prestigieux en faveur de son voisin. Après quoi, il y eut une partie de billes, puis Joe et Huck retournèrent à l'eau. Cette fois, Tom ne voulut pas y aller. Il s'était aperçu qu'en se déshabillant, il avait perdu le bracelet en peau de serpent à sonnette qu'il portait à la cheville, contre les crampes. Quand il eut retrouvé son bracelet, les autres étaient fatigués et voulurent se reposer. Le repos entraîne à la rêverie, voire à la mélancolie. Ils songèrent que là-bas, de l'autre côté du fleuve, se trouvait leur village natal, éclairé par les rayons du soleil. Tom se surprit en train d'écrire avec son orteil le nom de Becky sur le sable. Il l'effaça et se reprocha cette faiblesse. Mais il recommença. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il l'effaça de nouveau. Et pour ne plus céder à la tentation, il rejoignit ses camarades. Le moral de Joe était bas, très bas, tellement bas qu'il y avait lieu de se demander s'il pourrait jamais remonter. Il avait tellement la nostalgie de son foyer qu'il ne pouvait se faire à l'idée d'en être privé. Les larmes n'étaient pas loin. Huck n'était pas gai non plus. Tom était découragé, mais s'efforçait bravement de ne pas le laisser paraître. Il gardait en réserve un secret qu'il ne voulait pas encore révéler. Mais si la mauvaise humeur ne se dissipait pas, il serait obligé de parler. Aussi, c'est d'un air enjoué qu'il s'exclama. « Les gars, je parie que nous ne sommes pas les premiers pirates sur cette île. Il faut que nous partions à la découverte. Il y a sûrement un trésor caché quelque part. Ça en serait une affaire de trouver un coffret plein d'or et d'argent, hein ?» L'enthousiasme soulevé par cette proposition ne dura guère. Tom fit encore deux ou trois tentatives sans plus de succès. Ça ne rendait pas. Joe grattait le sable avec un bâton. Il avait l'air de porter le diable en terre. « Moi, je propose qu'on abandonne, » finit-il par dire. « Je veux retourner chez moi. On est trop seuls ici. »«
Mais non, mon vieux, ça va se tasser. Pense aux belles parties de pêche que nous faisons. »«
Je m'en fiche de la pêche. Je veux retourner chez moi. »«
Voyons !» Tu ne seras jamais mieux qu'ici pour nager.
Nager, j'en ai marre. On dirait que pour que ça m'amuse, il faut qu'on me le défende. Je veux m'en aller.
Bébé veut retourner chez sa maman.
Oui, je veux retourner chez ma maman. Et si vous aviez la vôtre, vous feriez comme moi. Je ne suis pas plus bébé qu'un autre, dit Joe en reniflant.
Eh bien, c'est ça. Laissons bébé retourner chez sa maman, n'est-ce pas, Huck ?
Pauvre petit, il veut voir sa maman.
Il ira la voir, mais oui, nous restons ici.
Huck, qu'est-ce que tu en dis ?
Le moins qu'on puisse dire est que le oui de Huck manquait de conviction.
Je ne te parlerai plus jamais de ma vie, dit Joe en se levant pour se rhabiller.
Tant pis, dit Tom, je ne te le demande pas. Rentre chez toi pour qu'on se paye ta tête. En voilà un pirate.
Huck et moi, nous ne sommes pas des bébés.
Nous restons, n'est-ce pas, Huck ?
Que Joe retourne chez lui, s'il veut.
nous n'avons pas besoin de lui. » En dépit de sa fanfaronnade, Tom manquait d'assurance. De voir Joe se rhabiller, cela l'ennuyait. Il n'aimait pas non plus voir que Huck suivait avec envie les préparatifs de Joe et gardait un silence de mauvais augure. Sans dire un mot d'adieu, Joe se dirigea vers le banc de sable. Tom sentit son cœur se serrer. Il regarda Huck. Huck détourna les yeux et dit « Moi aussi je veux m'en aller, Tom. Nous sommes trop isolés ici, et ça ira de mal en pis. Allons-nous-en. »
« Certainement pas. Allez-vous-en tous les deux si vous voulez. Moi, je reste. »«
Tom, j'aime mieux m'en aller. »«
Mais va-t'en. Qu'est-ce qui te retient ?»
Huck ramassa ses hardes. « Tom, tu ferais mieux de venir toi aussi. Réfléchis. Nous t'attendrons sur l'autre rive. »«
Eh bien, vous m'attendrez longtemps. C'est moi qui vous le dis. »
Huck s'éloigna, le cœur gros. Tom le regarda s'en aller. Une lutte s'engagea en lui entre l'orgueil de rester et le désir de les suivre. Il espérait que les deux autres se raviseraient, mais ceux-ci, lentement, continuaient leur route. Imposant silence à son amour-propre, Tom courut après eux et leur cria.
« Attendez, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. »
Ils s'arrêtèrent et firent demi-tour. Tom les rejoignit. Il leur confia son secret. Ils écoutèrent d'abord d'un air maussade, mais quand ils virent où Tom voulait en venir, ils applaudirent avec des cris de joie à son idée.
« Merveilleux ! Si tu nous avais dit ça plus tôt, nous ne serions pas partis !»
Tom trouva une excuse, mais en réalité, il avait eu peur que ce secret lui-même, sa dernière arme, ne réussît pas à les retenir bien longtemps. Aussi avait-il combiné de ne s'en servir qu'en dernier ressort. Les enfants revinrent gaiement. Les jeux reprirent avec entrain. Le plan de Tom était admirable, génial. Le repas se composa d'œufs et de poissons. Après quoi, Tom déclara qu'il voulait apprendre à fumer. Joe emboîta le pas. Huck confectionna des pipes qu'il bourra. Les novices n'avaient encore fumé que des cigares faits de feuilles de vigne qui piquent la langue et sont tout au plus bons pour des enfants. Ils s'allongèrent par terre, s'appuyèrent sur un coude et, non sans appréhension, commencèrent à tirer les premières bouffées. La fumée n'avait pas très bon goût. Ils toussèrent un peu. Tom dit « Mais ça n'est pas difficile. Si j'avais su que c'était si simple que ça, j'aurais appris plus tôt. »
« Moi aussi, dit Joe. Ça n'est rien du tout. »
Bien des fois, j'ai regardé des gens fumer et j'ai eu envie d'en faire autant. Je ne croyais pas que c'était si facile que ça.
Moi aussi, j'en ai eu envie.
Huck, je t'en ai parlé plus d'une fois, hein ?
Oui, bien des fois, fit Huck.
Eh bien, moi alors, dit Tom, des centaines de fois. Tu te rappelles pas, près de l'abattoir ? Même que Bob Tanner était là, et Johnny Miller, et Jeff Thatcher aussi. Tu te rappelles pas, Huck ?
Si, dit Huck.
C'était le lendemain du jour où j'ai perdu une bille blanche. Non, c'était la veille.
Tiens, dit Tom, la preuve, c'est que Huck se rappelle.
Il me semble que je pourrais fumer la pipe toute la journée, dit Joe. Je n'ai pas mal au cœur.
Moi non plus, dit Tom, je fumerais bien toute la journée.
Mais je te parie que Jeff Thatcher ne pourrait pas.
Jeff Thatcher, il tournerait de l'œil avant d'avoir aspiré de bouffer.
T'as qu'à lui faire essayer. Et Johnny Miller, je voudrais bien l'y voir.
Johnny Miller, avec une seule bouffée, il serait frais.
Dis donc, Joe, si les copains nous voyaient, tu parles.
Faut rien leur dire, et une fois qu'on sera tous ensemble, je te dirai. Dis donc, Joe, j'ai envie de fumer. T'as pas une pipe ?
Et toi, tu me répondras, sans avoir l'air d'y toucher. Oui, j'ai ma vieille pipe, et j'en ai une autre, que je peux te prêter. Mais mon tabac n'est pas fameux. Je te répondrai. « Oh, ça n'a pas d'importance du moment qu'il est assez fort. Et puis tu sortiras tes pipes et on les allumera et tu verras la tête qu'ils feront.
Ça sera crevant. Je voudrais déjà y être. »
Moi aussi. Et quand on leur dira qu'on a appris à fumer quand on était pirate, ils regretteront de ne pas être venus.
Sûrement.
Etc. Etc. La conversation continua sur ce ton. Bientôt, elle devint décousue et tomba. Un silence régna. Les fumeurs commencèrent à cracher. Leurs glandes salivaires devenaient de véritables fontaines. Bientôt, ils n'arrivèrent plus à cracher assez vite pour éliminer l'excès de salive qui se formait. Le trop-plein se déversa dans la gorge. De temps à autre, il leur fallut réprimer un haut-le-cœur intempestif. Les deux débutants étaient livides. La pipe de Joe lui glissa des mains. Celle de Tom en fit autant. Et la salive montait toujours. Joe dit d'une voix blanche « J'ai perdu mon canif. Il faut que j'aille le chercher. » Les lèvres de Tom tremblaient. Il chevrota. « Je vais t'aider. Toi, va de ce côté-là et moi, je vais du côté de la source. Te dérange pas, Huck. On le trouvera bien sans toi. » Huck se rassit et attendit. Il attendit une heure. Trouvant le temps long, il partit à la recherche de ses camarades. L'un et l'autre dormaient à point fermé, chacun de son côté. Un rapide examen des lieux démontra à Huck que, si ses deux amis avaient éprouvé un malaise quelconque, ils avaient fait le nécessaire pour y mettre fin. Au dîner, ce soir-là, la conversation ne fut pas très nourrie. Quand, après le repas, Huck bourra sa pipe et offrit d'en préparer deux autres, Tom et Joe déclinèrent en prétextant qu'ils ne se sentaient pas très bien, qu'ils avaient dû manger quelque chose d'un peu indigeste. Vers minuit, Joe se réveilla et appela ses camarades. L'atmosphère était lourde, d'une lourdeur de mauvais aloi. Malgré la chaleur écrasante, les enfants se serrèrent les uns contre les autres près du feu. Ils s'assirent et attendirent les événements. Le silence continuait. La lueur du feu faisait paraître encore plus opaque l'obscurité environnante. Tout à coup, une brève lueur éclaira un instant le feuillage des grands arbres. Le feu se reproduisit plusieurs fois. La forêt fit entendre une sorte de gémissement. Sentant soudain une brise leur caresser la figure, les enfants frissonnèrent à l'idée que ce pouvait être l'haleine de l'esprit de la nuit. Après une accalmie, un nouvel éclair illumina, comme en plein jour, tout le paysage dans ses plus petits détails et se refléta sur trois visages blêmes et effarés. Un coup de tonnerre retentit, formidable, et se perdit en grondements sinistres dans le lointain. Un vent froid éparpilla les feuilles mortes ainsi que les cendres du foyer. Un autre éclair illumina la forêt et fut immédiatement suivi d'un fracas tel qu'il donna l'impression de déchiqueter la cime des arbres juste au-dessus de la tête des enfants. Terrifiés, ceux-ci se cramponnaient les uns aux autres dans l'ombre que les éclairs ne faisaient qu'accentuer. Quelques grosses gouttes de pluie claquèrent sur les feuilles. « Les gars, vite, à la tente !» s'écria Tom. Butant dans les racines, se prenant les pieds dans les lianes, ils bondirent dans trois directions différentes. Une violente rafale secoua les arbres, faisant tout vibrer sur son passage. Les éclairs succédèrent aux éclairs, les coups de tonnerre aux coups de tonnerre. Une pluie torrentielle vint à tomber, et la tempête qui s'élevait chassait l'eau en nappes qui balayaient le sol. Les enfants s'interpellaient en criant à tue-tête, mais le vent et le tonnerre les empêchaient de s'entendre. Un, ils parvinrent à se frayer un chemin et regagnèrent l'abri de la tente. Ils avaient froid, ils avaient peur, ils étaient trempés. Mais dans un tel cataclysme, ne pas être seul, c'était déjà quelque chose. La tempête devint de plus en plus forte. La voile fut arrachée et s'envola. Les enfants se prirent par la main et, au prix de quelques chutes et de multiples contusions, coururent chercher un refuge sous un gros chêne au bord de la rivière. Les éléments étaient déchaînés. Une suite ininterrompue d'éclairs projetait sa lueur crue et sans ombre sur les arbres, sur les vagues, sur les falaises de la rive opposée, que, par intervalles, entre les nuages à la dérive et le voile oblique de la pluie, on voyait comme en plein jour. Les arbres pliaient sous la rafale. L'eau du fleuve se soulevait en grandes vagues blanches d'écume que prolongeaient les embruns. De temps à autre, un arbre déraciné tombait sur les broussailles environnantes. De terrifiants coups de tonnerre déchiraient les oreilles. La tempête, que l'on eût cru parvenue au maximum de sa violence, redoubla. L'île sembla se disloquer. Les enfants eurent l'impression qu'elle allait tout à la fois être emportée par le vent, sombrer dans le fleuve, disparaître dans l'eau jusqu'à la cime des arbres dans un bruit assourdissant. Rude nuit pour de jeunes égarés. Puis la bataille cessa. Les éléments se calmèrent. Les lueurs et les coups de tonnerre diminuèrent d'intensité. Petit à petit, le temps redevenait calme. La paix reprenait ses droits. Encore tout tremblant, les trois pirates regagnèrent leur camp. Et là, ce qu'ils virent les fit remercier Dieu. En leur absence, le grand sycomore, à l'abri duquel ils avaient dormi depuis leur arrivée, était en miettes. Il avait été frappé par la foudre. Dans le camp, tout était détrempé. Le foyer était éteint. Avec l'insouciance de leur âge, les enfants n'avaient pris aucune précaution contre la pluie. C'était un désastre. Leurs vêtements ruisselaient et ils mouraient de froid. À force de recherche, ils découvrirent que, sous le gros tronc qu'ils avaient choisi pour abriter leur foyer, là où le feu avait ménagé une sorte de voûte, un espace large comme la main était resté sec. Quelques rares tisons couvaient encore sous la cendre. Patiemment, à l'aide de brindilles et d'écorces prélevées sur la partie inférieure des troncs abrités, ils réussirent à faire reprendre le feu. Alors, ils entassèrent du bois mort et firent un immense brasier qui contribua puissamment à leur remonter le moral. Ils firent sécher ce qu'il leur restait de jambon, se restaurèrent, puis s'assirent et passèrent le reste de la nuit à causer, car il n'était pas question de trouver où que ce soit un endroit sec pour dormir. Au matin, les rayons du soleil pénétrèrent jusqu'à eux. Tout engourdis de sommeil, ils s'allongèrent à découvert près du banc de sable et s'endormirent. La grande chaleur les réveilla, et ils préparèrent leur déjeuner. Après le repas, ils se sentirent raides et courbattus. Une fois de plus, la nostalgie les envahit. Tom s'en aperçut et s'efforça d'égayer ses camarades du mieux qu'il put. Mais il n'avait envie ni de jouer aux billes, ni de faire les clowns, ni de nager. Alors il leur rappela le secret qu'il leur avait confié et réussit à les dérider. Il en profita pour les intéresser à un nouveau plan. Cesser pour un instant d'être des pirates et pour changer, devenir des Indiens. Cette idée leur plut. En un instant, ils se déshabillèrent et se tracèrent avec de la boue, des ébrures sur tout le corps. S'étant ainsi promus au rang de chef, ils se précipitèrent à travers bois pour effectuer l'attaque d'un campement anglais. Puis, jouant le rôle de tribus ennemies, ils se ruèrent les uns contre les autres avec des cris de guerre épouvantables, s'entretuèrent et se scalpèrent mutuellement des centaines de fois. Cette journée de carnage leur laissa un excellent souvenir. Vers l'heure du repas du soir, ils se rassemblèrent dans le camp, affamés et heureux. Mais là, une difficulté se présentait. Entre Indiens ennemis qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas rompre le pain de l'hospitalité sans d'abord faire la paix. Pas moyen de faire la paix sans fumer le calumet de la paix. Pas moyen de s'en tirer autrement. Deux des sauvages auraient bien voulu être restés pirates. Quoi qu'il en soit, il fallait y passer. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils demandèrent le calumet et tirèrent une bouffée chacun leur tour, suivant le rite consacré. Ils trouvèrent que l'état de sauvage ne leur réussissait pas si mal, car ils avaient appris quelque chose. Ils avaient découvert que maintenant, il leur était possible de fumer un peu sans éprouver le besoin d'aller à la recherche d'un canif égaré. Ils ne furent pas assez incommodés pour être sérieusement mal à l'aise. Il ne s'agissait pas de manquer de courage. Après le souper, ils s'exercèrent prudemment et parvinrent à s'en tirer sans incident fâcheux. Ils étaient plus fiers de leur nouvel exploit qu'ils ne l'auraient été de scalper ou d'écorcher les Sioux des six tribus. Laissons-les fumer, bavarder et fanfaronner.
Nous n'avons plus besoin d'eux pour l'instant.